Vous écoutez, on lit pour vous.
Démanteler la cybercriminalité, un texte de Pierre Trudel, paru le 13 mai 2025 dans Le Devoir. Lors de la récente campagne électorale, il a été beaucoup question de criminalité, mais on a vu très peu d'engagement à lutter efficacement contre les comportements délictueux en ligne. Dans certains milieux, on préfère s'en prendre à des crimes plus visibles. Un parti a même promis d'autoriser la police à démanteler les campements des sans-abri. Mais rien pour obliger les réseaux sociaux qui profitent des pratiques criminelles qui sévissent en ligne à agir proactivement pour prévenir les arnaques et autres cybercrimes. Le documentaire « Marie contre Goliath » raconte le combat de l'animatrice Marie-Claude Barrette contre les criminels qui ont usurpé son identité et l'entreprise Meta, qui possède Facebook et Instagram. Cette dernière se traîne les pieds pour agir à l'égard des pratiques frauduleuses qui sévissent sur ces plateformes. En répandant de fausses publicités utilisant l'image et la voix de Marie-Claude Barrette et celle d'autres personnalités connues, des fraudeurs ont abusé de la confiance de milliers de consommateurs. Ils ont soutiré des milliers de dollars à de nombreuses victimes qui ont été bernées par les fausses images et les voix imitées de personnalités publiques qui inspirent confiance. Et Meta, qui se montre pourtant si prompt à censurer les contenus émanant des médias canadiens, a tergiversé face aux demandes de supprimer les messages frauduleux de ces plateformes. Le 10 mai 2025, le chroniqueur du Devoir Gérard Bérubé écrivait que « la fraude à l'investissement occupait le troisième rang dans le palmarès des escroqueries en 2024, mais dominait la liste et de loin selon le préjudice financier causé. En 2023, Statistique Canada rapportait en outre qu'un Canadien sur six a été victime de fraude dans la dernière année. Dans Marie contre Goliath, on rappelle que les crimes commis en ligne menacent pratiquement tout le monde. Le professeur Benoît Dupont de l'École de criminologie de l'Université de Montréal y explique que, selon des chiffres de 2019, entre 6 et 9 % de la population canadienne aurait été victime de cyberarnaques. La moitié des crimes perpétrés au Canada sont des cybercrimes. À peine 10 % des victimes portent plainte auprès des services de police. Certains se disent prêts à déroger aux droits constitutionnels pour imposer des peines minimales aux contrevenants ou démanteler des tentes de personnes sans abri. Mais ces droits constitutionnels deviennent sacrés lorsqu'il s'agit de maintenir l'impunité des plateformes qui permettent aux fraudeurs et harceleurs en ligne de prospérer. Invoquant la liberté d'expression, un parti politique est même allé jusqu'à promettre d'écarter le projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne, celui qui prévoyait obliger les réseaux sociaux à en faire plus pour lutter contre la criminalité en ligne. Ce projet de loi, bloqué durant des mois lors du dernier Parlement, visait le contenu qui victimise sexuellement un enfant et en revictimise un survivant, le contenu incitant à l'extrémisme violent ou au terrorisme, le contenu qui incite à la violence, qui fomente la haine ou qui vise à intimider un enfant. De même, le projet de loi s'attaquait au contenu intime communiqué de façon non consensuelle, incluant les hypertrucages, de même qu'à celui poussant un enfant à se porter préjudice. Chez beaucoup d'opposants aux mesures visant les géants d'Internet, la croyance que rien ne peut être fait contre la cybercriminalité a la vie dure. Pour certains, la responsabilité incombe aux victimes. Elles n'ont qu'à être plus prudentes. Il faut les éduquer. Même indifférence à l'égard des laissés-pour-compte de la société que sont la plupart des sans-abri. C'est leur faute. Et c'est le silence radio lorsqu'il s'agit de mettre en place des actions concertées afin de remédier à la pénurie de logements ou de juguler les menaces à la sécurité des Canadiens sur Internet. En ligne comme ailleurs, certains font le choix de viser les victimes plutôt que les causes des fléaux. Il y a pourtant moyen d'agir. Dans un reportage présenté à la facture de Radio-Canada, une équipe de journalistes a réussi à piéger des fraudeurs opérant depuis un pays lointain qui cherchaient à frauder des Canadiens en leur proposant des investissements dans de la soi-disant crypto-monnaie ou d'autres arnaques du même acabit. Si une équipe de reporters avec relativement peu de moyens a été en mesure d'infiltrer et de piéger des arnaqueurs, il est légitime de penser que si les ressources étaient mises à la disposition des forces de police, il leur serait possible de faire de même. Lutter contre la cybercriminalité suppose de renforcer les capacités des instances chargées de l'application des lois de travailler de façon concertée pour démanteler ces réseaux qui sévissent sans égard aux frontières. La généralisation de technologies comme celle de l'intelligence artificielle vient forcément avec une recrudescence de manœuvres frauduleuses. C'est pour cela qu'il faut insister et rappeler qu'il n'y a pas de développement véritable de ces technologies sans de réelles mises à niveau des lois assurant la protection des personnes. Les politiques de développement des technologies d'Internet et de l'intelligence artificielle doivent donc comporter ce qu'il faut pour obliger les plateformes et les autres entreprises concernées à agir afin de prévenir les comportements frauduleux et prendre les moyens afin d'y remédier. À l'égard des environnements technologiques comme Internet, adopter des lois ne suffit pas, il faut les appliquer. Il faut surtout déployer des ressources pour démanteler les réseaux de fraudeurs au Canada ou ailleurs. Il faut également que les opérations policières soient constamment renouvelées, car si les États tardent à moderniser leurs approches, les fraudeurs, eux, savent innover. En 2025, c'est la cybercriminalité qu'il faut démanteler, pas les tentes des sans-abri. C'était « Démanteler la cybercriminalité », un texte de Pierre Trudel paru le 13 mai 2025 dans Le Devoir.
La pyramide sociale du CHEER, selon Laura Doyle Payan. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 19 mai 2025 dans le magazine Fugue. En publiant son récit de poésie narrative CHEER, Laura Doyle Payan vous invite dans l'univers du cheerleading avec ce que ça implique de performances exaltantes, de quête de perfection et de ce sentiment d'inadéquation quand on n'a pas la couleur de peau, le poids, la texture capillaire, l'expression de genre et l'orientation sexuelle recherchée par les adeptes d'uniformité. Tu as publié « Cœur yo-yo » il y a 5 ans. Qu'as-tu fait depuis? Les études ont été centrales. Quand « Cœur yo-yo » est sorti, je venais de terminer ma première année d'université en droit. Depuis, j'ai gradué. Entre les deux, j'ai passé plusieurs nuits à étudier la jurisprudence. En parallèle, j'ai participé à plusieurs projets de création collective. Quelle place le militantisme a-t-il occupé durant cette période? C'est ce qui motive ma création. Sur le terrain et sur les réseaux sociaux, j'ai été très impliqué dans la justice climatique, dont la campagne pour le désinvestissement des énergies fossiles à l'Université McGill. On a gagné en 2024. En ce moment, il y a une campagne similaire pour le désinvestissement de l'institution dans l'industrie de l'armement. Je m'implique aussi beaucoup dans la justice migratoire. Quand tu as participé aux auditions pour joindre l'équipe de cheer de ton école, pourquoi avais-tu l'impression que tu ne serais pas sélectionné? J'avais une image très limitée du cheerleading. Dans ma tête, c'était seulement pour les cool kids et je n'en faisais pas partie. En plus, la gymnastique n'a jamais été mon point fort. Quand j'ai intégré l'équipe, je n'étais pas la personne qui faisait des backflips. J'imaginais que ça jouerait en ma défaveur. Au fond, Je me basais sur ce que j'avais vu dans les films américains et je n'étais pas cette personne-là, celle qui date le footballeur, qui est blonde, très mince, souvent blanche, avec une petite clique d'amis. Comment tes années de cheer ont-elles mis en relief tes différences? Le cheerleading est un sport basé autant sur la performance athlétique que sur le spectacle, alors l'image est primordiale. À mes débuts, la façon dont cette idée était approchée correspondait aux stéréotypes du film américain. On était 2-3 personnes avec les cheveux bouclés et on devait se raidir les cheveux pour la compétition afin de présenter une image d'équipe. Ma meilleure amie venait chez moi et on passait 5 heures à essayer de plaquer mes cheveux. C'était un peu l'enfer et ça ne donnait pas un super beau résultat. Le contexte mettait aussi en lumière ton expression du genre et ton orientation sexuelle. Oui, tout à fait. Ce n'était pas nécessairement discuté. Même si j'étais en bon terme avec mon équipe, on n'était pas des amis très proches et on ne jasait pas de nos vies personnelles. Souvent, j'avais l'impression d'être la seule personne queer, ce qui n'était probablement pas le cas. À la fin du secondaire, j'étais out et j'avais ma copine. J'avais peur que ce soit un enjeu. Je sentais que certaines choses me gardaient à part. Cela dit, on était là les uns les unes pour les autres. Qu'as-tu vécu de positif dans ce sport? Il y avait un désir de prendre soin des autres. Durant mes premières années, une coéquipière a eu ses menstruations pour la première fois et elle a paniqué. On l'a aidée à se sentir bien et on lui a procuré ce dont elle avait besoin. Quand certaines personnes avaient des problèmes avec leur famille, on en discutait. Si d'autres avaient des enjeux de mutilation ou d'anorexie, on le remarquait parce qu'on était en proximité avec nos corps respectifs. On prenait donc le temps de voir comment ça allait. Aujourd'hui, tu n'hésites pas à faire résonner ta voix. Étais-tu aussi vocale à l'adolescence? Je crois que oui. J'étais très impliquée, notamment dans le comité des alliés contre l'homophobie à mon école secondaire. Je l'ai joint en 3e secondaire parce qu'on n'avait pas le droit de le joindre avant, étrangement. Le 2 mai dernier, la presse a publié un article sur la grande hésitation des jeunes queers à faire partie de ces comités par peur de représailles. Tu en penses quoi? Quand j'ai lu le texte, ça m'a rendu vraiment triste. À mon école, on a dû lutter pour créer le comité. Comme j'en parle dans le livre, la direction était très fermée à cette idée. Ça a pris beaucoup d'efforts de la part des élèves et de certaines profs pour que ça existe. La direction a cheminé pour comprendre que c'était pertinent. Aujourd'hui, j'ai peur qu'on assiste à un effet balancier, comme on le voit souvent à travers l'histoire. Durant les périodes économiques difficiles, les gens ont souvent besoin de boucs émissaires et ce sont souvent les personnes queer et les personnes migrantes qui deviennent la cible de leurs attaques. Cheer peut résonner chez les adultes, mais le livre va certainement rejoindre les ados. Tu as également publié « Opération Fleur de nuit », un livre jeunesse. T'adresses-tu aux jeunes dans l'espoir d'ouvrir les cœurs et les esprits? J'ai 2 missions en parallèle. D'une part, je veux que ça touche des jeunes qui vivent ça, que ça leur donne de l'espoir et que ça leur rappelle qu'elles ne sont pas seules à vivre ça. Aussi, j'espère que ça va parler à des jeunes qui ne vivent pas du tout ces expériences-là pour les aider à comprendre l'autre et à faire preuve de plus d'ouverture. Info Cheer de Laura Doyle Péan aux éditions de La Bagnole, 226 pages, roman 14 ans et plus. C'était La pyramide sociale du cheer selon Laura Doyle Péan. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 19 mai 2025 dans le magazine Fugue.
Un spécialiste du chauffage récupère sa chaleur. Un texte de Didier Berthe, paru le 13 mai 2025 dans La Presse. La productivité des entreprises peut rimer avec la durabilité quand l'utilisation optimale des ressources permet d'accroître l'efficience de la production et de réduire l'impact sur l'environnement. À Saint-Augustin de Desmaures, une entreprise a mené à bien un tel projet avec des gains doublement significatifs. Quoi de mieux pour un spécialiste du chauffage que de réaliser des économies dans sa propre usine en récupérant la chaleur? Dans son histoire, SBI a fait évoluer ses systèmes de chauffage alimentés à l'énergie renouvelable qu'est le bois en leur apportant davantage d'efficacité année après année depuis 1999 quand la famille Quentin a pris les rênes de l'entreprise. Si les poêles à bois d'il y a 25 ans n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, la façon de les produire évolue également vers davantage d'efficience. Nous avons toujours eu cette conscience de vouloir être capable de faire le même produit avec des coûts énergétiques moindres, souligne Jean-François Quentin, vice-président du manufacturier de poêles et de foyers à bois qui emploie 250 personnes. Comme manufacturier, la dépense énergétique a un impact sur nos coûts de production. Soit nous réduisons nos coûts, soit nous en faisons plus avec la même énergie, explique Jean-François Quentin. C'est initialement pour améliorer la productivité de l'usine qu'un projet a été mis en place et a finalement conduit à réduire la consommation d'énergie. Chaque été, nous avions un problème croissant de chaleur excessive dans l'usine, causant des interruptions de production et des baisses de productivité. Par exemple, nous devions accorder 10 minutes de pause par heure à cause de la chaleur, et cela représentait un coût important en salaire improductif, relate Jean-François Quentin. La solution la plus évidente était d'installer une climatisation avec les coûts financiers et énergétiques que cela implique. L'entreprise adopte alors une approche différente et plus durable en se questionnant sur les sources de chaleur. Elle s'aperçoit que plusieurs équipements contribuent à hausser la température au sein de l'usine. Au lieu d'installer des climatiseurs partout, la chaleur des machines est récupérée et évacuée à l'extérieur. L'hiver, la chaleur de l'usine est captée pour alimenter des thermopompes, réduisant l'énergie nécessaire pour chauffer le bâtiment. Le gain obtenu sur les coûts de chauffage en hiver permet de financer l'installation de quelques climatiseurs dans des lieux ciblés de l'usine pour abaisser la température en été. Au bout du compte, notre consommation globale d'énergie a diminué, tout en améliorant le confort thermique, dit le vice-président de SBI. C'est un changement de paradigme. Au lieu de chercher une solution rapide, nous avons accepté de prendre le temps de bien diagnostiquer et d'agir à la source. Seule une telle démarche permet une amélioration réelle et durable, souligne-t-il. La réduction de la température de l'usine en été a permis de réduire les pauses chaleur et d'augmenter le confort pour les employés, favorisant la productivité. Le projet, alliant la productivité et la durabilité, a obtenu une subvention de 1 million de dollars sur un projet total de 2,4 millions, ce qui a permis de ramener le délai de retour sur investissement de 14 ans à environ 6 ans. Les entreprises ont tout intérêt à intégrer la productivité et la durabilité en même temps, parce que c'est profitable économiquement et que cela les prépare à l'inévitable respect des règles environnementales, pointe Gladys Caron, première vice-présidente, stratégie et communications externes chez Investissement Québec. La Société d'État a elle-même soutenu le projet de SBI. Le développement durable a longtemps été associé à des coûts et à une vision de purisme, alors qu'on se rend compte que cela peut être payant pour les entreprises. Des entreprises contactent Investissement Québec pour les aider à revoir la conception de leurs produits. Nous utilisons des outils d'analyse du cycle de vie afin d'identifier de nouvelles façons de faire, en visant l'efficacité, un coût moindre, donc une marge de profit plus grande et un impact environnemental réduit comparativement aux scénarios de référence, explique Nicolas Turgeon, directeur productivité durable chez Investissement Québec. C'est du gros bon sens. La productivité durable consiste à faire mieux avec moins. C'était un spécialiste du chauffage récupère sa chaleur. Un texte de Didier Berthe, paru le 13 mai 2025 dans La Presse.
Vers un filet social pour les artistes du Québec, un texte de Catherine Lalonde, paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir. C'est là qu'on est rendu, a répondu le ministre de la Culture jeudi, en parlant du filet social pour les artistes du Québec. Lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère, Mathieu Lacombe s'est avancé avec une fermeté nouvelle sur cette idée qui pourrait aider directement les artistes à avoir de meilleures conditions financières. Le Parti fédéral élu a pris un engagement envers le filet social, a précisé M. Lacombe. L'objectif est partagé et je ne voudrais pas qu'on se prive de l'argent d'Ottawa. En effet, depuis qu'il est de retour à la tête de Patrimoine canadien, le ministre fédéral Stephen Guilbeault a relancé la possibilité d'instaurer un filet social pour les artistes par le biais de l'assurance-emploi, selon les informations obtenues par Le Devoir. Une semaine avant le scrutin, lors d'un débat électoral sur la culture, M. Guilbeault s'était engagé à amener les réformes nécessaires pour mettre en place un filet social. Qu'il prenne la forme d'une assurance, à l'image de celle qui couvre les travailleurs saisonniers, comme ceux de la pêche, ou d'une assurance emploi, ce filet pourrait changer profondément le visage du financement des arts, tant au Québec qu'au Canada. Actuellement, pour avoir accès aux bourses, les artistes doivent proposer des projets de création ou de production. Autrement dit, ils sont tenus de faire de nouveaux projets et le système encourage, par ricochet, la production d'œuvres. C'est une question posée par Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour Québec solidaire, qui a ouvert la porte à cette prise de position du ministre de la Culture. La discussion a aussi porté sur la nécessité de rapatrier les compétences culturelles et leurs enveloppes du fédéral au Québec. Le Québec, en matière de culture, devrait avoir tous les pouvoirs dont il a besoin, a affirmé M. Lacombe. C'est une question de souveraineté culturelle qui dépasse les partis politiques, a-t-il poursuivi, une posture que tous les gouvernements ont défendue, même les libéraux comme Jean Lesage et Jean Charest. La stratégie du ministre est de poser des gestes unilatéraux plutôt que de demander la permission d'Ottawa. Comme pour encadrer les géants du numérique, on va poser des gestes sans demander la permission, a-t-il rappelé. Mathieu Lacombe a annoncé dans la foulée le dépôt de son projet de loi sur la découvrabilité de la culture francophone dans l'environnement numérique pour les prochaines semaines. Pauvre musée. Parmi les autres préoccupations des partis de l'opposition, le financement des musées est revenu à plusieurs reprises. Le ministre Lacombe s'est voulu rassurant, rappelant que le programme d'aide au fonctionnement pour les institutions muséales, PAFIM, a été augmenté de quelque 32% dans les 5 dernières années. Il a toutefois omis de rappeler que le nombre de musées soutenus par ce programme a augmenté et que la subvention moyenne par musée a ainsi conséquemment diminué. En 2019-2022, le PAFIM soutenait 96 établissements avec 20,3 millions de dollars, selon la Société des musées du Québec, SMQ, pour une moyenne de 211 458 dollars par musée. En 2024-2025, ils étaient 124 à se partager 25,1 millions, une moyenne de 202 419 dollars en pleine période d'inflation, alors que les coûts de production des expositions ont explosé de 30% selon la SMQ. Or, en 2025, 12 musées nouvellement agréés sont admissibles au PAFIM et l'espère, dont la Maison Louis-Cyr dans la Naudière, le Musée Redpath à Montréal, l'Espace René Lévesque en Gaspésie et la Fondation Guido Molinari dans la métropole. Seront-ils eux aussi subventionnés sur une enveloppe demeurée la même qu'en 2024? Sinon, combien le seront et viendront diminuer encore l'aide moyenne? Ces institutions ne connaissent elles-mêmes pas la réponse aujourd'hui et pourraient ne la connaître qu'en juin 2025, lorsqu'il sera trop tard pour rajuster la période estivale. La fin de la gratuité universelle dans les musées le premier dimanche du mois a été aussi une question récurrente des oppositions. C'était « Vers un filet social pour les artistes du Québec », un texte de Catherine Lalonde, paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir.